Chapitre 12. Après le départ d'Ottavio, on discuta à la Villa Orchiella l'opportunité d'un changement d'air pour Ginevra et Cieca. La jeune femme y était opposée. Il lui restait une fatigue morale et physique qui lui enlevait tout désir de se déplacer. Mais Silvio insista. Il avait eu avec le médecin une conversation qui s'était terminée par ces mots. Elle doit avoir conservé de la perte de son enfant un chagrin plus profond qu'elle ne l'a laissé paraître. Il faut la distraire pour qu'elle retrouve la plénitude de sa belle santé, vraiment atteinte par ce pénible événement. Beaucoup plus pour sa sœur que pour elle-même, Ginevra se laissa convaincre. Le médecin conseillait l'air de la mer. Silvio demanda « Où désirez-vous aller ? Voulez-vous que nous choisissions une de nos plages italiennes ou bien vous plairait-il de faire connaissance avec celle de France ?» Elle venait de lire un roman français qui l'avait charmée, surtout par la description que l'auteur faisait des côtes de Bretagne. Puisque Silvio lui offrait de lui-même ce voyage dans la patrie d'Hélène, répondant ainsi sans le savoir à son désir secret, elle dit aussitôt « J'aimerais beaucoup connaître la Bretagne qui doit être si différente de tout ce que j'ai vu jusqu'ici. » Silvio écrivit à son ami Verceuil pour lui demander quelques renseignements sur les différentes plages de la côte bretonne. Il reçut peu après une longue lettre, très documentée, car Madame de Verceuil était bretonne et elle avait parcouru toute la province à pied et en automobile. Elle offrait même au marquis Orchiella de lui donner la jouissance d'un vieux petit manoir dont elle avait hérité et qui se trouvait au bord de la mer, dans une anse, près du village de Crézennec. « C'est admirable comme situation. L'air y est incomparablement vivifiant. Mais vous n'y aurez aucune distraction en dehors de la pêche, de la chasse et des promenades, qui sont fort agréables dans ce pays pittoresque. » Ginevra s'écria « Mais voilà ce qu'il nous faut, puisque nous voulons un endroit tranquille. » Et tout aussitôt, Silvio écrivit à ses amis qu'il acceptait leur offre. Ginevra vit la mer pour la première fois un matin en ouvrant sa fenêtre. La veille, à l'arrivée, il était tard, elle avait entendu seulement le murmure sourd et aspiré la senteur de sel qu'une brise fraîche lui apportait. Mais ce matin, elle la voyait, immense, paisible, balancée au rythme mystérieux, inondée d'une coulée d'or brûlant par le soleil qui montait dans un ciel bleu pâle, à peine traversé de quelques nuages légers. La jeune femme murmura « Que c'est beau !» Derrière elle, Silvio s'avança et vint s'appuyer à la balustrade de granit du petit balcon. La brise, très douce ce matin, frôla ses cheveux bruns, son visage mat, aux yeux pensifs. Il dit, répondant à l'exclamation de sa femme « Oui, c'est admirable. Je me doutais bien que vous en seriez enthousiaste, Ginevra. » Il détourna son regard de la mer et rencontra celui de la jeune femme qu'elle levait sur lui en ce moment. Toute l'ardente clarté répandue au loin sur les flots semblait se refléter dans le bleu sombre des beaux yeux profonds. Les lèvres de Silvio tremblèrent un peu en murmurant « Vos yeux sont de la même nuance que la mer ce matin. » Ce fut tout. Mais Ginevra avait vu dans le regard de son mari une expression jusqu'ici inconnue d'elle, car Silvio avait réussi à ne rien laisser transparaître de son trouble, de ses sentiments secrets, chaque fois que le charme de la jeune femme avait plus fortement agi sur lui. Aujourd'hui, il s'était laissé surprendre. Pendant l'espace d'une seconde, Ginevra avait vu dans ses yeux noirs, qui la regardaient toujours avec tant de calme, l'admiration profonde, émerveillée pour cette beauté que semblait ignorer Silvio. Une joie soudaine la pénétra. Tandis qu'elle ramenait son regard vers la mer et qu'elle semblait tout entière à la contemplation de l'immensité, elle songeait « J'ai peut-être désespéré trop vite. » Le battement de ses artères se précipitait. Il lui semblait que les effluves vivifiants venus du large lui donnaient déjà une force nouvelle, une vie plus ardente. De nouveau, elle se reprenait à espérer, comme elle l'avait fait pendant quelques mois après son mariage. À mesure que le temps passait, le souvenir d'Hélène devait s'éloigner, s'estomper. et, près de lui, Silvio avait Ginevra, qu'il trouvait belle, qu'il admirait, elle le savait maintenant. Il fallait qu'il le lui dît. Il fallait qu'elle prît enfin, dans son cœur, la place que l'autre détenait indûment. Cet espoir nouveau fit ce que toutes les prescriptions médicales n'avaient pu accomplir. En quelques jours, Ginevra a été transformée. Elle allait et venait avec entrain à travers le vieux petit manoir dont elle égayait l'ameublement ancien par des gerbes de bruyère que Tchéka et elle rapportaient de leur promenade. Donna Maria, qui était casanière, demeurait plus volontiers au logis. Mais les deux sœurs passaient des heures au dehors, assises parmi les rochers ou excursionnant en automobile. Silvio tout d'abord les accompagnait. Au bout de quelques jours, il parut pris d'une passion irrésistible pour la chasse et la pêche, si bien que peu à peu, on ne le vit plus qu'au moment des repas et dans la soirée. Ginevra pensa aussitôt « Il me fuit toujours !» Mais elle n'en conclut pas cette fois qu'il la détestait. Plus expérimentée, connaissant le pouvoir dont elle disposait, elle se disait maintenant « Il a peur de moi, peur de m'aimer. Pourquoi, je l'ignore. Il faudra que je le sache. Et je veux qu'il me le donne, cet amour auquel j'ai droit. » Tchèque apparaissait éprouver le plus grand bien de ce changement d'air. L'inquiétude de sa mère et de sa sœur s'atténuait. Avec des soins, on réussirait à fortifier cette santé fragile, à franchir cette période de l'adolescence, mortelle pour la tante à qui ressemblait Tchéka. La fillette n'avait plus fait allusion à la petite scène qui avait impressionné sa sœur, et Ginevra pensait que les idées funèbres avaient fui dans cette atmosphère nouvelle. Chaque après-midi, les deux sœurs quittaient le manoir et allaient s'asseoir parmi les rochers face à la mer. La baie s'étendait devant elle, houleuse ou paisible, selon le caprice du vent. Tchèque, après avoir cherché des coquillages, revenait près de sa sœur et s'amusait à suivre des yeux le vol des oiseaux de mer. Ginevra se perdait en longues songeries, devant l'onde aux teintes changeantes, aux aspects innombrables. Elle pensait à son petit enfant mort, à ses déceptions secrètes, à son espoir revenu, qui vacillait parfois devant le parti pris d'indifférence de Silvio. Elle n'avait plus revu dans les yeux noirs cette expression qu'il avait si joyeusement surprise. N'y avait-il eu là qu'un fugitif éblouissement chez lui? Ne se méprenait-elle pas en croyant qu'elle pouvait l'émouvoir, effacer peu à peu par l'emprise de sa beauté, de son âme profonde et ardente, le souvenir de la morte? Ainsi alternait en elle l'espoir et le découragement. Pas plus qu'auparavant, elle n'osait montrer à Silvio toute sa tendresse. Et elle était trop fière, trop délicate pour employer les manèges de la coquetterie. Elle laissait donc à Dieu le soin de dénouer cette situation douloureuse et se renfermait dans l'accomplissement de ses devoirs en s'efforçant de ne pas trop penser à l'amour que Silvio lui refusait. Mais quand, chaque jour, elle le voyait s'éloigner seul pour des heures, quand elle recevait de lui un baiser léger, presque hâtif, elle ne pouvait s'empêcher de songer avec amertume. « Si Hélène était là au lieu de moi, il ne la quitterait pas ainsi. Et comme il embrasserait autrement !» Néanmoins, à cause de cette flamme rapide qu'elle avait vue dans le regard de Silvio, l'espoir était maintenant le plus fort. Elle se disait qu'avec le temps, la victoire serait à elle, peut-être. Un soir, avant le dîner, le marquis Ortiel avait trouvé sa femme qui se promenait dans le petit parc le long des allées sinueuses. Le crépuscule commençait à devenir de la nuit. Un croissant de lune un peu voilé se détachait sur le gris vague du ciel. Dans cette demi-obscurité, la robe bleu pâle de Ginevra formait comme une grande tache claire et mouvante. Et quand la jeune femme se détourna en entendant venir son mari, le beau visage s'éclaira discrètement sous la clarté diffuse que commençait de répandre ce fragment de lune. « J'ai reçu un mot de mes amis de Verceuil, Ginevra. Ils sont en ce moment chez les parents de la baronne, au château de Grenellac, près de Quimperlé. Ce n'est pas fort loin d'ici et ils ont formé le projet de venir nous voir la semaine prochaine. » Ginevra dit poliment « Je serai très heureuse de les connaître. » En réalité, elle n'y tenait aucunement, sachant que c'était chez eux que le marquis Ortiel avait vu pour la première fois Hélène Duvivier. Nous devons leur offrir de prolonger leur séjour. Cela ne vous contrariera pas trop ?»«
Aucunement. Mais nous ne sommes pas très bien installés ici pour recevoir nos hôtes. »
Les Verseuils sont d'aimables gens qui s'arrangent de tout et détestent les cérémonies. La baronne est une femme charmante qui vous plaira, je l'espère.
Ginevra fit quelques pas et Silvio, machinalement, se mit à marcher près d'elle. Une brise chaude leur apportait le parfum de la végétation presque méridionale qui surgissait en ce coin de terre bretonne au fond de la baie. La robe de Ginevra frôla des myrtes poussant en pleine terre. La jeune femme monta lentement deux marches rustiques et se trouva sur une petite terrasse qu'un figuier énorme ombrageait. Silvio l'avait suivie. Il vint s'accouder près d'elle à la vieille balustrade de pierre rongée par la mousse. Devant eux, au loin, la clarté vague laissait deviner le lent balancement de la mer. Le son mouillé des petites vagues se brisant sur les roches à marée montante arrivait à leurs oreilles. Un peu de la grande brise du large, traversant la baie, les frappa au visage.
Silvio demanda « N'êtes-vous pas encore lasse de ce pays ?»«
Oh, pas du tout, il renferme de telles beautés !»«
Des beautés fort différentes de celles de notre Ombrie. » »«
Tout à fait différentes, en effet. Ici, nous ne retrouvons pas notre douceur ombrienne, la grâce souple de nos collines, le charme délicatement nuancé des paysages. » Tout est plus heurté, un peu âpre, mélancolique, jusque dans le jet vigoureux de cette végétation qui est celle des contrées méridionales et qui paraît tout autre, cependant, sous les nuages de ce ciel breton, dans l'atmosphère humide et la lumière toujours discrète. Mais le charme de cette Bretagne est très prenant. Ne le trouvez-vous pas aussi ?
Certainement, je la connaissais déjà et j'y suis revenu avec plaisir.
Elle savait, en effet, qu'il avait visité, naguère, avec Hélène. Il ne le lui avait pas dit. Elle l'avait appris par Don Paolo, qui avait ajouté « Hélène n'aimait pas ce pays, qu'elle trouvait triste et ennuyeux. » Il lui parut tout à coup que l'ombre de la morte passait entre eux. Elle appuya plus fortement à la balustrade de pierre ses bras nus qui frémissaient. Et elle songeait, il pense à elle, sans doute, à ce voyage qu'ils ont fait ensemble. Une tristesse lourde s'abattait sur elle. Pour la première fois, elle trouva un relent amer à la senteur d'algues et de sel que la brise apportait de la mer. Lui se taisait près d'elle. Il inclinait la tête sur sa poitrine et il pensait à Hélène, en effet. Il refaisait en esprit ce voyage. Elle était délicieusement incompréhensive de la beauté spéciale de ce pays triste, pauvre petite chérie. Il lui fallait les parfums, la lumière des contrées de soleil, ou bien le bruit de Paris, l'animation de la vie mondaine, l'éclat factice des salons. Le voyage en Bretagne avait laissé dans la mémoire de Silvio un souvenir plutôt désagréable. Cette constatation, dont il ne s'était pas avisé jusqu'ici, lui apparaissait subitement toute formée dans son esprit. Il en éprouva une impression pénible, comme s'il venait de commettre une infidélité à l'égard d'Hélène. Une voix en lui chuchota.
« Ce n'est pas la première. Infidèle, oui. Tu lui es infidèle dans tes pensées chaque jour. L'autre, tu l'aimes. Parce que tu ne le lui dis pas, tu te persuades que tu gardes ton serment. Mais, en ton cœur, tu as déjà trahi Hélène. »
Un son de cloche se fit entendre. Ginevra se redressant en disant « Voilà le dîner. » Ils quittèrent la terrasse. Devant eux, les petites allées s'étendaient dans la clarté diffuse. Ginevra appuya sa main sur le bras de son mari en disant à mi-voix « Quel dommage de rentrer! Il fait si bon !»
Il regardait le beau profil, la bouche pensive, un peu tremblante, le mouvement des grands cils au bord de la paupière. D'un geste doux, il prit la main de la jeune femme, la glissa sous son bras et la retint entre ses doigts qui étaient chauds et frémissants. Le cœur de Ginevra se gonfla d'une joie profonde. Oh, si elle osait lui dire, en ce moment, si elle osait lui crier sa souffrance, son amour. Mais non, elle n'osait pas. Il ne disait rien, et même l'étreinte de ses doigts se desserrait déjà. C'était fini cette velléité de tendresse.
Peut-être, un moment, s'était-il figuré avoir Hélène près de lui. Et puis, il se rappelait que c'était Ginevra seulement. Dans la nuit, mal éclairé par ce douteux reflet de lune, le manoir dressait sa façade crevassée, sur laquelle se détachait une tourelle revêtue de feuillage. Un lierre énorme se retenait au mur et son feuillage bruissait dans l'ombre sous le frôlement de la brise qui devenait plus forte. Au seuil d'une fenêtre éclairée apparut Tchèque. Elle était tout en blanc, avec ses cheveux bruns répandus sur ses épaules. Son regard s'attachait sur son beau-frère et sur sa sœur. Silvio dit, avec une gaieté forcée, « Vous nous attendiez, petite sœur. Peut-être pensiez-vous que nous étions perdus dans les détours de ce parc. Mais nous voilà sains et saufs. Oh, je n'avais pas peur. Vous étiez avec Ginevra, c'est tout ce qu'il faut. » Elle s'approcha de sa sœur, lui prit la main et y appuya ses lèvres en murmurant « Jean, ma chère Jean !» Ginevra, avec un sourire ému, demanda « Eh bien, que te prend-il, ma Tchèque ?»«
Je t'aime tant et je voudrais que tout le monde t'aimât comme moi. »
Ginevra sourit de nouveau, cette fois avec mélancolie. Elle dit d'un ton qu'elle essayait de rendre gai, mais qui se nuançait d'amertume.
« Ceci n'est pas en ton pouvoir, petite Tchèque, mais ton affection m'est bien douce, elle est une des joies de ma vie. »
Silvio causa peu pendant le dîner. Il semblait soucieux ou mécontent. Donna Maria avait la migraine. Elle monta chez elle aussitôt après le repas en emmenant Tchèque qui se couchait de bonne heure. Silvio et Ginevra restèrent seuls dans le salon aux tentures fanées où s'effritaient doucement, rongés par les vers, les vieux meubles aux formes lourdes. Des bruyères, dans une vasque de cuivre, dressaient leurs fleurettes rosées dont la senteur discrète était annihilée par celle, forte et âcre, de chrysanthèmes jaunes, languissamment penchées hors du long col d'un vase d'étain. L'air arrivé par les fenêtres ouvertes, saturé de l'arôme des pins et du parfum des flots, dont le sourd bruit de ressac s'entendait incessamment. Une grosse lampe était allumée et Ginevra brodait à sa lumière. Silvio, assis près de sa femme, parcourait une revue. Il proposa, du bout des lèvres, « Voulez-vous que je vous lise quelque chose ?»«
Je le veux bien !»
Elle ajouta aussitôt, après un rapide coup d'œil jeté sur la physionomie légèrement altérée de son mari,
« Vous semblez fatigué, Silvio. »
« En effet, je souffre de la tête, mais cela ne sera rien. » Il prit un volume sur la table près de lui, mais la main de Ginevra se posa sur la sienne.
« Non, laissez cela, reposez-vous. Je ne tiens pas du tout à la lecture ce soir. »
« En ce cas, je vais faire un tour dehors en fumant un cigare. L'air, la solitude de la nuit, un peu de marche, voilà ce qui me fera sans doute le plus de bien. » Il se leva en ajoutant « Bonsoir, Ginevra. » Il s'inclina en étendant la main pour prendre celle de sa femme. Mais Ginevra pencha un peu la tête en lui offrant son front.
« Bonsoir, mon ami, » dit-elle avec une douceur tremblante.
Des lèvres chaudes effleurèrent ce beau front, hâtivement, et s'en écartèrent aussitôt. Silvio s'éloigna. Sur le seuil, il s'arrêta pour allumer son cigare. Puis il s'engagea dans l'ombre indécise du dehors, et sa silhouette disparut à travers la nuit. Ginevra reprit sa broderie. Mais, de nouveau, la tristesse lourde s'appesantissait sur elle. Très tard, elle regagna son appartement. Silvio n'était pas encore rentré. Elle l'entendit peu après monter lentement l'escalier, puis entrer dans sa chambre. Et elle connut qu'il avait dû fumer et travailler très avant dans la nuit, en voyant le lendemain son cendrier plein et des feuillets de papier couverts de sa fine écriture. Ainsi, le mal de tête n'avait été qu'un prétexte. Autre chose tourmentait Silvio, lui faisait ce visage soucieux, altéré. Autre chose. Ginevra a cherché et n'osait dire « Il lutte contre son amour pour moi. » Car cette lutte, que rien ne justifiait, comment était-elle possible ?